Chapitre 2 Captive. Le faucon devint rapidement invisible et la route resta dégagée. Malgré la hâte de Perrine, les ornières gelées, si dangereuses pour les jambes des chevaux et la nuque des cavaliers, ne permirent pas d'aller très vite. Dans le vent qui charriait des fragments de glace, on devinait des menaces de tempête pour le lendemain. Au milieu de l'après-midi, la colonne s'engagea dans une forêt où la neige, par endroits, montait jusqu'au boulet des chevaux. Une demi-lieue plus tard, le petit groupe arriva en vue du camp où attendaient les hommes de Derivière, les Aiel, les forces de Mayenne, celles du Géaldan et Feil. Mais rien ne se passa comme prévu. En réalité, il y avait quatre camps. Un par nationalité, chacun à bonne distance des autres. Autour des tentes à rayures des gardes-ailés de Dame Berylaine, les feux agonisants étaient abandonnés, au milieu d'un champ d'ustensiles de cuisine et de chaudrons renversés. Même chose dans le coin de terre piétinée, où les soldats d'Aliandre étaient cantonnés le matin même. Dans ces deux camps, il ne restait plus que les palefreniers, les maréchaux ferrants et les cochers. Tous massés autour des piquets de chevaux et du véhicule de l'intendance, le regard rivé sur une scène qui attira aussitôt l'attention de Perrine. À 500 pas de la butte rocheuse plate où les matriarches avaient choisi d'établir leur camp, les soldats de Mayenne en veste grise se tenaient prêts au combat, leurs montures piaffant d'impatience. Quelques 900 hommes, manteaux rouges battant au vent, au même rythme que les longs rubans écarlates accrochés à leurs lances. Plus près de la butte, à proximité d'un ruisseau gelé, les hommes du Géaldan formaient un mur de lances aussi impressionnant. Leur arme arborant un ruban vert, ces soldats en veste verte et armure sombre paraissaient un peu ternes, en regard des casques et des cuirasses rouges des lanciers de Mayenne. Heureusement, avec leur armure couleur argent, leur veste et leur manteau rouge et leur reine et leur couverture de sel à franges pourpres, les officiers relevaient nettement le niveau. Un magnifique spectacle lors d'une parade. Mais on n'était pas à la revue. Les gardes ailés face aux hommes de Géaldan, ceux-ci face à la butte, et au sommet, les gardes de Rivière, arc long à la main. Aucun n'avait encore tiré. Mais tous gardaient une flèche encochée. De la folie. Poussant marcheur au maximum, ses compagnons dans son sillage, Perrine rejoignit rapidement la tête de la formation du Géaldan. Flanqué de Galen, le capitaine borgne de ses gardes ailés, et d'Anoura, sa conseillère à Aes Sedai, Berylaine était en grande conversation avec le premier capitaine d'Aliandre, un petit homme dur comme l'acier nommé Gérard d'Arganda. Énervé, il secouait si fort la tête que le plumet blanc de son casque en oscillait frénétiquement. La première dame de Mayenne serrait les dents. Anoura avait les lèvres pincées, et Galen pianotait sur le casque à plumet rouge accroché au pommeau de sa selle, comme s'il brûlait d'envie de le poser sur son crâne. Dès qu'ils aperçurent Perrine, les belligérants se turent et tournèrent leurs montures vers lui. Bien droite sur sa selle, Berylaine avait néanmoins les cheveux en bataille, et sa jument blanche frissonnait, l'écume d'un galop éperdu gelant sur ses flancs. Parmi tant de gens, impossible d'isoler une odeur particulière. Perrine n'eut pas besoin de ça pour comprendre que les choses risquaient de mal tourner. Avant qu'il ait pu demander à ses idiots quelles mouches les avaient piquées, Berylaine prit la parole, d'un ton protocolaire glacial.
« Seigneur Perrine, ton épouse et moi étions à la chasse avec la reine Aliandre, quand des aïels nous ont attaqués. Par bonheur, j'ai réussi à m'échapper. Personne d'autre n'est revenu. Mais les aïels ont dû faire des prisonniers. » Un détachement de mes lanciers est parti en reconnaissance. Nous étions à environ 4 lieues au sud-est d'ici, donc ils devraient revenir avec des nouvelles avant la tombée de la nuit.
« Feil, capturé !»
grogna Perrine. Avant même de passer du Géaldan en Amadicia, ils avaient entendu des histoires de mise à sac et de pillage perpétrées par des aïels. Mais c'était toujours loin d'eux, le prochain village ou celui d'après. Jamais rien d'assez proche pour justifier des inquiétudes, ou être sûr qu'il ne s'agissait pas de rumeurs. Surtout quand on devait exécuter les ordres de ce fichu Randaltor. Et maintenant, voilà où ça avait mené.
« Que faites-vous encore ici ?»
lança Perrine.
« Pourquoi n'êtes-vous pas à sa recherche ?»
Il criait, s'avisa-t-il. Mais il aurait voulu hurler et frapper ses abrutis.
« Que la lumière vous brûle tous ! Vous attendiez quoi ?»
Berylaine répondit d'un ton neutre, comme si elle faisait un rapport sur la quantité de foin disponible pour les chevaux. Perrine faillit exploser de rage. D'autant plus que son interlocutrice avait parfaitement raison.
Seigneur Perrine, 200 ou 300 Aiel nous ont attaqués. Mais tu sais aussi bien que moi, d'après ce que nous avons entendu, qu'il peut y avoir une dizaine de bandes de ce genre dans les environs. Si nous fonçons tête baissée en force, nous risquons de lourdes pertes contre les Aiel, sans savoir si ce sont eux qui détiennent ta femme, ni même si elle est encore vivante. Il nous faut ces informations, Seigneur Perrine. Sans elle, nous ne pouvons rien faire.
Si elle est encore vivante. Perrine frissonna, comme s'il faisait froid à l'intérieur de lui-même, dans ses os et son cœur. Fail devait avoir survécu. Oui, il le fallait. Pourquoi l'avait-il laissé venir à Abila avec lui? Sur le visage d'Anoura, encadré de fines tresses tarabonaises, Perrine lut une sincère compassion. Soudain conscient qu'il avait mal aux mains à force de serrer ses rênes, il se força à relâcher la pression, puis plia les doigts à l'intérieur de ses gantelets.
« Elle a raison, »
dit Elias, en approchant sur son ongre.
« Prends sur toi, mon garçon. Avec les Aiel, commettre une erreur, c'est un suicide. Tu veux nous entraîner tous à la mort? À quoi bon, si ta femme reste prisonnière ?»
Elias tentait de dédramatiser un peu, mais son odeur le trahit.
« On va la retrouver, fiston. La connaissant, elle s'est peut-être déjà évadée. » Et elle est en train de revenir à pied. En robe, ça risque de lui prendre du temps. Les éclaireurs de Berelain repéreront ses traces.
Elias passa les doigts dans sa barbe et gloussa.
Et si je ne fais pas mieux qu'eux, je jure de bouffer de l'écorce. On te la ramènera.
Perrine ne fut pas dupe.
Oui,
lâcha-t-il simplement. À pied, personne ne pouvait échapper à des Aiel.
Allez-y, vite!
Pas dupe non plus, Elias pensait retrouver le cadavre de Fail. Mais elle devait être vivante. Prisonnière, certes. Ce qui valait mieux que... Les deux hommes ne pouvaient pas communiquer par la pensée, comme avec les loups. Mais Elias hésita, à croire qu'il avait lu dans l'esprit de Perrine. Cela dit, il ne tenta pas de nier l'évidence. Talonnant son ongre, il partit aussi vite que la neige le permettait. Après un coup d'œil à Perrine, Aram le suivit. Il n'aimait pas Elias, mais vénérait Fail, l'épouse du grand Perrine yeux jaunes.
Épuiser les chevaux n'aurait servi à rien,
pensa celui-ci, en regardant s'éloigner les deux cavaliers. Mais qu'ils se dépêchent, bon sang! Et combien il aurait voulu les accompagner! Le jeune homme sentit qu'il se fissurait à l'intérieur. Si ses éclaireurs revenaient avec de mauvaises nouvelles, il se briserait en mille morceaux. À sa grande surprise, les trois champions suivirent Aram et Elias, les sabots de leurs chevaux soulevant des geysers de neige. Perrine parvint à remercier Massouri et Séonide d'un signe de tête. Il fit de même avec Edara et Karel. D'où que soit venue la suggestion, facile de deviner qui avait donné l'autorisation. Pour mesurer l'emprise des deux matriarches, il suffisait de constater qu'aucune des sœurs n'essayait de prendre les choses en main. Elles en brûlaient d'envie, sûrement, mais elles restaient impassibles, ne trahissant en rien leur impatience. Tout le monde ne regardait pas les champions. Tout en couvrant Perrine de regards réconfortants, Anoura étudiait les matriarches du coin de l'œil. Contrairement aux deux autres Aes Sedai, elle n'avait rien promis, mais elle se montrait aussi circonspecte qu'elle avec les Aiel. Son œil unique rivé sur Berelain, Galen attendait qu'elle lui donne l'ordre de dégainer son épée. Mais la première dame, le visage toujours de marbre, était concentrée sur Perrine. Côte à côte, Grady et Néald, l'air sinistre, regardaient le jeune homme à la dérobée. Immobile sur sa selle comme un moineau sur une corde asséchée, Balwer essayait de se faire oublier et ouvrait grand les yeux et les oreilles. Arganda fit passer son ongre rouant devant le cheval noir au puissant poitrail de Galen, qui le foudroya du regard, sans qu'il s'en offusque plus que ça. Le chef des gardes ailés marmonna des imprécations que Perrine ne comprit pas parce qu'il avait l'esprit ailleurs.
Seul Fail importait. Fail, par la lumière. Le cœur près d'exploser, il était au bord de la panique. Déjà tombé dans un gouffre, mais se retenant à une racine du bout des doigts. Dans son désespoir, il envoya une sonde mentale en quête de loup. Elias devait avoir déjà essayé. Lui, il n'avait pas dû s'affoler en apprenant la nouvelle, mais ce n'était pas une raison. Perrine chercha et trouva. Les meutes de trois orteils, d'eau glacée, de crépuscule et de cordes de printemps, entre autres. Son chagrin se déversa dans son appel à l'aide. Et ça ne le fit pas devenir moins fort, bien au contraire. Ces loups avaient entendu parler de jeunes taureaux, et ils l'assurèrent de leur compassion. Cela posé, ils se tenaient le plus loin possible des deux pattes, qui faisaient fuir le gibier et tuaient tous ceux de leurs frères qu'ils pouvaient isoler. Il y avait tant de meutes de deux pattes, certains montant des quatre pattes et d'autres non, qu'il était impossible de dire laquelle détenait la compagne de jeunes taureaux. D'autant plus que les deux pattes se ressemblaient tous, à part ceux qui canalisaient le pouvoir et ceux, aux yeux jaunes, qui savaient parler avec les loups. « Pleure là, » conseillèrent-ils à Perrine, « puis reprends ta vie et retrouve-la dans le rêve des loups. » Les unes après les autres, les images qui formaient des mots dans la tête de Perrine disparurent, à part une. « Pleure là, puis reprends ta vie et retrouve-la dans le rêve des loups. » Au bout d'un moment, même celle-là se dissipa.
« Vous m'écoutez ou quoi ?»
demanda Arganda. Ce type n'avait rien d'un noble au visage délicat. Malgré ses habits de soie et les incrustations d'or de son armure, il avait l'air de ce qu'il était. Un vétéran qui avait commencé par manier la lance et qui devait être couvert de cicatrices. Ses yeux brillaient d'une ferveur, semblable à celle des sbires de Massema. Dans son odeur, Perrine reconnut de la colère et de la peur.
« Ces sauvages ont aussi capturé la reine Aliandre.
Nous la trouverons. « Lorsque nous trouverons ma femme !»
lâcha Perrine, glaciale.
« Elle est vivante, c'est sûr. »«
Et si vous me disiez à quoi rime tout ça, officier ?»« Vous étiez prêt à charger quand je suis arrivé, face à mes compatriotes !»
Perrine avait d'autres responsabilités. L'admettre lui laissant un goût de bile au fond de la gorge. Mais c'était ainsi. Rien ne comptait à part Fail. Pourtant, les gars de Deux-Rivières étaient ses hommes. Arganda approcha et referma sa main gantée sur la manche de Perrine.
« Allez-vous m'écouter ? La première dame, Berelaine, dit que des aïels ont enlevé ma reine, et vos archers protègent des fichus aïels. Mes hommes seront ravis de les soumettre à la question. »
Arganda riva les yeux sur Edara et Karel. Deux aïels qu'aucun archer ne protégeait.
« Le premier capitaine est bouleversé, »
dit Berelaine. Elle posa une main sur l'autre bras de Perrine.
Je lui ai expliqué qu'aucun aïel présent ici n'est dans le coup. Je suis sûr de pouvoir le convaincre.
Perrine chassa la main de la première dame et se dégagea de l'emprise d'Arganda.
Aliandre m'a juré fidélité, officier. Et toi, tu as prêté serment de la servir. Ça fait de moi ton seigneur. Je répète que nous trouverons ta reine en même temps que ma femme. Parce qu'elle est vivante. On ne torturera et ne touchera personne. Sauf si j'ordonne le contraire. Pour le moment, ramène tes hommes dans leur camp et soyez tous prêts à partir quand je donnerai l'ordre. Si vous n'êtes pas capable de me suivre, vous resterez en arrière.
Arganda dévisagea Perrine en haletant comme un soufflet de forge. Il tourna brièvement la tête vers Grady et Méald, puis regarda de nouveau son seigneur.
À vos ordres,
marmonna-t-il. Après avoir beuglé des instructions à ses subordonnés, il partit au galop, sans même attendre qu'il commence à les transmettre. En colonne, les lanciers finirent par le suivre. Vers leur camp, comme prévu. Savoir si Arganda avait l'intention d'y rester était une autre affaire. Et rien n'assurait, s'il le faisait, que ce soit une bonne chose.
« Tu t'en es très bien tiré, Perrine, »
dit Berelaine.
« Une situation difficile et un moment pénible pour toi. »
Plus de protocole. Juste une femme pleine de compassion. Décidément, Berelaine avait plus d'une corde à son arc. La voyant tendre une main gantée de rouge, Perrine fit reculer Marcheur, pour qu'elle ne puisse pas le toucher.
« Arrête ça !»
cria-t-il.
« Ma femme a été enlevée ! Je n'ai pas de temps à perdre avec tes jeux stupides !»
Berelaine sursauta comme s'il l'avait giflée. Le rouge lui montant aux joues, elle changea encore de registre, devenant tout sucre avec une pointe d'ironie.
« Il n'y a pas de jeu stupide, Perrine. Deux femmes s'affrontent, et c'est toi le trophée. J'aurais cru que tu serais flatté. Suis-moi, seigneur capitaine Galen. J'imagine que nous devrons nous aussi être prêts au départ, quand on nous en donnera l'ordre. »
Tendant l'oreille comme si elle lui donnait des instructions, le borgne retourna vers les gardes ailés en compagnie de Berelaine. Anoura n'avait pas suivi le mouvement.
« Parfois, tu es incroyablement idiot, Perrine Aibara.
dit-elle, un rictus sur les lèvres.
La plupart du temps, en fait.
Perrine ne comprit pas de quoi il était question et s'en ficha comme d'une guigne. Parfois, la Sedai sembla agacée que Berylaine poursuive un homme marié de ses assiduités. À d'autres occasions, ça l'amusait. Et elle lui prêtait même main forte, l'aidant à se retrouver seule avec lui. Pour l'heure, la première dame et sa conseillère le dégoûtaient. Talonnant marcheur, il s'éloigna sans un mot. Sur la butte, les archers s'écartèrent juste ce qu'il fallait pour le laisser passer. Sans quitter des yeux les deux corps de lanciers qui regagnaient leurs camps respectifs, ils refermèrent les rangs, quand les matriarches, les Aes Sedai et les Achamanes furent passés. Contrairement à ce que Perrine redoutait, ses compagnons ne s'agglutinèrent pas autour de lui, une délicatesse dont il leur fut reconnaissant. Au sommet de la butte planait une forte odeur de méfiance. La tension persistait. À force d'être piétinée, la neige avait fondu par endroits, alors que d'autres restaient verglacées. Devant une des tentes basses, les quatre matriarches qui n'étaient pas venus à Abila regardaient les deux Aes Sedai mettre pied à terre, à côté de Karel et d'Edara. Indifférente à ce qui se passait autour d'elles, voyaient-elles seulement les Gaïshain en robe blanche qui leur tenaient lieu de domestiques? Comme si tout était normal, un de ces Gaïshain battait tranquillement un tapis pendu à une corde accrochée entre deux arbres. Parmi les Aiel, seuls Gaol et les Promises laissaient deviner qu'on était passé à un souffle d'une bataille. Choufa autour de la tête, voile noire baissée, les guerrières assises sur les talons brandissaient encore leurs courtes lances et leurs rondaches. Quand Perrine eut sauté à terre, elles se levèrent. Danil Lewin approcha, en mâchouillant nerveusement l'énorme moustache qui faisait paraître son nez encore plus grand. Son arc à la main, il remit une flèche dans le carquois accroché à sa ceinture.
« J'ignorais que faire d'autre, »
dit-il d'un ton heurté. Vétéran des puits de Doumaï, Danil avait aussi affronté des Trollocs à Deux-Rivières, mais ce qui arrivait ici le dépassait.
« Quand nous avons su ce qui venait de se produire, les types du Gialdan fondaient déjà sur nous. Du coup, j'ai chargé Jondin Baran, Humarwin et Get Ailia d'aller voir ce qui s'était passé. Puis j'ai dit aux Kerieniens et à tes serviteurs de mettre les véhicules en cercle et de se planquer à l'intérieur du périmètre. J'ai failli devoir ligoter les jeunes gens qui suivent Domfail partout. Ils voulaient partir à sa recherche, alors qu'ils ne distinguaient pas une empreinte de pas d'un tronc de chêne. Après, j'ai regroupé tout le monde ici. Et j'ai redouté une charge, jusqu'à ce que la première dame arrive avec ses lanciers. Quel crétin, quand même! Croire qu'un de nos aguels pourrait faire du mal à Domfail.
Même quand ils donnaient du périne gros comme le bras à leur chef, les gars de Deux-Rivières restaient très protocolaires avec Fail.
« Tu as bien fait, Danil, »
dit Perrine en confiant les rênes de marcheur à son ami. Hou et Get étaient de bons pisteurs, et Jondin Baran aurait pu suivre le vent de la veille. Voile toujours baissée, Gaol et les Promis s'éloignaient déjà.
« Dis à un homme sur trois de rester ici, »
ordonna Perrine à Danil. Même s'il avait douché l'ardeur d'Arganda, rien n'autorisait à penser que l'officier avait changé d'avis.
« Que les autres démontent le camp. Nous partirons dès que nous aurons eu des nouvelles. »
Sans attendre de réponse, Perrine alla barrer le chemin de Gaol et lui posa une main sur l'épaule. Pour une raison inconnue, le regard de l'aïel se durcit au-dessus de son voile. Derrière lui, Souline et les autres Promises se dressèrent sur la pointe des pieds.
« Trouve-la, Gaol, »
dit Perrine.
« Pour moi. Vous toutes, je vous en prie, découvrez qui l'a enlevé. Si quelqu'un peut pister des aguels, c'est bien vous. »
Le regard de Gaol s'adoucit. Et les Promis se détendirent. Dans la mesure où elles en étaient capables, en tout cas. Étrange tout ça. Gaol et les guerrières, imaginaient-ils qu'ils les tenaient pour responsables?
Un jour, dit Gaol, nous nous réveillons tous du rêve. Mais si elle rêve encore, nous la trouverons. Si les Aiel l'ont capturée, nous ne devons plus traîner. Parce qu'elle se déplace vite. Même dans... ça.
En prononçant ce mot, Gaol écrasa sous son pied un petit tas de neige. Perrine hocha la tête et s'écarta pour laisser passer les Aiel, qui filèrent au pas de course. Dans la neige, ils ne maintiendraient pas ce rythme très longtemps, mais ils iraient plus vite que n'importe qui. Ça ne faisait pas de doute. En passant devant Perrine, chaque Promise posa les doigts sur son voile au niveau des lèvres, puis tapota l'épaule du jeune homme. Souline fit un signe de tête, mais aucune ne parla. Fail aurait su lui expliquer le sens de ce curieux baiser avec les doigts. Cette expédition avait quelque chose d'étrange,
s'avisa Perrine quand la dernière promise l'eut dépassée.
Les femmes laissaient Gaoul en tête. En temps normal, elles auraient préféré le criblé de lance.
Pourquoi ?
Peut-être que Chiad et Bane devaient être avec Feil. Gaoul ne se souciait pas particulièrement de Bane, mais Chiad, c'était une autre affaire. Il espérait qu'elle renonce à la lance pour l'épouser. C'était de notoriété publique. Les promises ne devaient pas encourager Chiad sur cette voie, et pourtant, Perrine grogna, révulsée par son égoïsme. Chiad, Bane, et qui d'autre ? Même aveuglé par la peur de perdre Feil, il aurait dû poser cette question. S'il voulait revoir sa femme, il allait devoir tordre le cou à sa peur et rouvrir les yeux. Autant essayer de tordre le cou à un arbre. Le sommet de la butte grouillait de monde. Quelqu'un avait emmené Marcheur, et une partie des gardes de rivière quittaient le cercle d'archers pour aller rejoindre leur camp. En chemin, ils précisaient ce qu'ils auraient fait si les lanciers avaient chargé. De temps en temps, un type demandait ce qu'il en était de Feil. Était-elle vivante ? Ou bien allait-on chercher son cadavre ? Immanquablement, les autres hommes faisaient taire cet imprudent, tout en jetant des regards inquiets à Perrine. Dans cette agitation, les Gaïshan vaquaient imperturbablement à leurs occupations. Sauf ordre contraire, ils auraient agi de même en cas de bataille, sans lever le petit doigt pour aider un des camps. Les matriarches s'étaient retirés avec Séonide et Massouri sous une tente, dont le rabat était fermé et attaché. À l'évidence, elles ne voulaient pas qu'on les dérange. Pour pouvoir parler de Massema, sans doute. Peut-être en cherchant la manière de l'éliminer, sans que Perrine ou Rand sache que le coup venait d'elle. Perrine se tapa du poing dans la paume. Bon sang ! Il avait oublié le prophète, censé arriver bientôt avec ses 100 gardes d'honneur. Avec un peu de chance, les éclaireurs de Berelaine seraient de retour avant. Elias et les autres les suivant de peu.
« Seigneur Perrine !»
dit Grady dans le dos du jeune homme.
Se retournant, Perrine vit les deux achamans debout devant leurs chevaux, rênes entre les mains. Grady prit une grande inspiration. Voyant que Néad l'encourageait d'un hochement de tête, il se lança.
« En voyageant, nous pouvons couvrir beaucoup de terrain. Et si nous trouvons les ravisseurs, je doute que quelques centaines d'aguels puissent nous empêcher de la reprendre la captive. »
Perrine voulut ordonner aux deux hommes de commencer sur le champ, puis il se ravisa. Grady était un fermier, certes, mais pas un chasseur ou un homme des bois. Pour Néald, tout lieu sans fortification était un village. Capable de distinguer une empreinte de pas d'un tronc de chêne, s'il trouvait une piste, il ne serait pas fichu de la suivre.
D'accord, mais il pouvait les accompagner.
S'il n'était pas aussi bon que John Dean, il se débrouillait. Danil saurait se dépatouiller d'Arganda et de Massema.
Sans parler des manigances des matriarches.
« C'est ça, oui. Allez faire vos pactages, »
soupira Perrine. Où était donc Balwer ? Nulle part en vue.
Pourtant, il n'avait pas dû se lancer à la recherche de Feil.
« On aura peut-être besoin de vous deux ici. »
Grady en scia de surprise, et Néald en resta bouche bée. Perrine ne leur laissa pas le loisir de protester. Les plantant là, il approcha de la tente au rabat attaché. De l'extérieur, impossible de défaire les nœuds.
Quand les matriarches voulaient être en paix, même les chefs de tribu devaient s'incliner. Alors, un type des terres mouillées, soi-disant seigneur de Deux-Rivières,
Perrine dégaina son couteau et fit mine de trancher les lanières. Avant qu'il ait positionné sa lame, les nœuds bougèrent comme si on les défaisait de l'intérieur.
Le jeune homme se redressa et attendit.
Le rabat s'ouvrit pour révéler Nevarine.
Le châle noué autour de la taille, son souffle se transformant en buée devant elle, la matriarche ne semblait pas souffrir du froid. Quand elle vit le couteau que tenait Perrine, elle plaqua les mains sur ses hanches, dans un cliquetis de bracelet. Très mince, presque décharnée, ses longs cheveux blonds tenus en arrière par un foulard noir plié, cette femme un peu plus grande que Ninevée lui ressemblait beaucoup, sur le plan du caractère en tout cas.
« Tu es très impétueux, Perrine Aibara, »
dit-elle, sans s'écarter du rabat.
Un ton calme. Mais Perrine aurait juré qu'elle brûlait d'envie de lui frictionner les oreilles. Oui, une seconde Ninevée.
Cela dit, c'est compréhensible dans les circonstances présentes. Que veux-tu ?
Comment ?
Perrine s'interrompit pour déglutir.
Comment vont-ils la traiter ?
Je ne peux pas le dire, Perrine Aibara.
Pas une once de compassion. En matière d'impassibilité, les Aes Sedai auraient pu prendre des leçons.
capturer des gens de terre mouillée est contraire à nos coutumes. Sauf quand ce sont des tueurs d'arbres. Et même ça, n'est plus comme avant. Tuer sans nécessité est également proscrit. Mais beaucoup d'Aiel ont refusé les enseignements et les vérités révélées du Karakarn. Frappés par la sidération, certains ont jeté leurs lances, mais depuis, ils ont pu les reprendre. D'autres sont partis pour vivre comme ils pensent que notre peuple doit le faire. Je ne saurais dire quelles coutumes ils ont conservées ou abandonnées.
Perrine crut voir passer du dégoût sur le visage de la matriarche, dû à l'évocation des renégats, sans doute.
« Tu dois quand même avoir une idée. Ou une hypothèse. »
« Ne perds pas ton sang-froid, Perrine Aibara. Les hommes craquent souvent dans des cas pareils. Mais nous avons besoin de toi. Si nous devons t'attacher pour te calmer, ça te fera mal voir de tes compatriotes des terres mouillées. File sous ta tente. Si tu ne peux pas contrôler tes pensées, bois jusqu'à être incapable de réfléchir. Et ne viens pas nous déranger quand nous tenons conseil. »
Nevarine rentra sous la tente, referma le rabat et le refixa. Perrine passa le pouce sur le tranchant de son couteau, qu'il finit par rengainer. S'il insistait, ses femmes finiraient bel et bien par le ligoter. De plus, il doutait que Nevarine lui cachait quelque chose. Feil étant en danger, elle ne lui aurait pas fait de cachotterie. Elle ne savait pas, tout simplement. Après le départ des deux tiers des hommes de Deux-Rivières, le sommet de la butte était redevenu presque paisible. Les archers qui restaient, yeux rivés sur les camps des lanciers du Galdan et de Mayenne, ne parlaient pas, mais sautaient sur place pour lutter contre le froid. Comme d'habitude, les Gaïshain ne faisaient presque aucun bruit. En bas, dans les deux camps, on chargeait déjà les charrettes qui tenaient lieu de chariots à l'expédition. Certes, mais il valait quand même mieux laisser des sentinelles. Arganda pouvait essayer de les rouler. Un type ayant cette odeur risquait de se montrer
irrationnel,
acheva mentalement Perrine. Puisqu'il n'avait plus rien à faire sur la butte, il prit le chemin de sa tente, leur tente plutôt. Pataugeant dans la neige, il faillit s'étaler plusieurs fois. Davantage pour l'empêcher de battre au gré du vent qu'à cause du froid, il resserra les pans de son manteau sur son torse. Tenter de conserver sa chaleur corporelle aurait été une perte de temps, puisqu'il était glacé à l'intérieur. Le camp de Deux-Rivières grouillait d'activité. Les véhicules toujours en cercle, des serviteurs de Dobrain s'occupaient à les charger. Plus loin, d'autres préparaient les montures et les attelages. Les roues n'étant pas adaptées à la neige, on les avait démontées, accrochées au flanc des charrettes et remplacées par de gros patins en bois. Tellement couverts qu'ils semblaient deux fois plus gras que nature, les Kérieniens ne jetèrent pas un coup d'œil à Perrine. Les hommes de Deux-Rivières, eux, se pétrifiaient pour le regarder, jusqu'à ce qu'un camarade les rappelle à la réalité en leur flanquant un coup de coude dans les côtes. Perrine se réjouit que personne n'ajoute une tirade enfiévrée à ses manifestations de compassion. Dans le cas contraire, il n'aurait pas pu s'empêcher d'éclater en sanglots. Ici, il se révéla aussi inutile que sur la butte. La tente, déjà démontée, trônait sur une charrette avec son contenu. Une liste à la main, Basil Gill faisait l'inventaire. Bombardé Chambayan de la maison Aibara, il tenait lieu d'intendant aux jeunes époux et prenait son travail très au sérieux. Après une longue carrière d'aubergiste, peu habitué à vivre au grand air, il souffrait beaucoup du froid. Une écharpe autour du cou, il portait un gros bonnet et une épaisse paire de gants. Bizarrement, il tressaillit en voyant Perrine, marmonna qu'il devait continuer son inspection et fila à toutes jambes. Étrange. Une idée utile lui traversant enfin l'esprit, Perrine alla voir Danil et lui ordonna de faire relever toutes les heures les archers postés sur la butte et de s'assurer que tout le monde aurait un repas chaud.
« Les hommes et les chevaux d'abord, c'est bien, »
dit une voix peu puissante mais ferme.
« À condition de t'occuper de toi-même après. Il y a de la soupe bien chaude, du pain et du jambon fumé. Le ventre plein, tu auras moins l'air d'un spectre errant. »
« Merci, Lini. »
« Un spectre errant ? » Non. Il se sentait plutôt comme un cadavre en cours de décomposition.
« Je mangerai dans un moment. »
La gouvernante de Feil était une femme d'apparence frêle, à la peau parcheminée et aux cheveux blancs coiffés en chignon. Le dos bien droit et le regard vif, elle restait redoutablement vive. Même quand l'inquiétude la rongeait, comme en ce moment. À cause de Feil, sans doute, mais...
« Megdin, t'es avec mon épouse, »
devina Perrine. Lini acquiesça. Les deux femmes se quittaient rarement ces derniers temps. Une perle, comme disait Feil. Lini semblait tenir Megdin pour sa fille, une affection que la nouvelle dame de compagnie de Feil trouvait parfois pesante, aurait-on dit.
« Et je les retrouverai toutes les deux. »
promit Perrine.
Et les autres prisonnières aussi. Fini. Retourne à ton travail. Je mangerai, c'est promis. Je dois m'occuper de...
Le jeune homme s'éloigna sans finir sa phrase. Il n'avait rien à faire, sinon penser à Fail. Errant sans but, il sortit du cercle de charrette. Une centaine de pas au-delà des piquets à chevaux, une autre butte, plus basse, se dressait dans la neige. De là, Perrine pourrait voir les traces laissées par Elias et son groupe et attendre leur retour. Avant qu'il ait atteint le sommet, son odorat surdéveloppé lui apprit qu'il n'y serait pas seul. L'homme, assis sur les talons, ne devait pas tendre l'oreille, car il se releva seulement quand Perrine arriva à côté de lui. Avec les crissements de la neige, il aurait dû réagir beaucoup plus tôt. La main sur la poignée de son épée, Talon Vore regarda dubitativement Perrine. Très grand, pas épargné par les coups durs dans sa vie, ce type était d'habitude très sûr de lui. Redoutait-il un sermon parce qu'il était absent lors de l'enlèvement de Fail? Mais elle ne voulait pas de garde du corps, à part Bane et Shiad, dont la présence ne semblait pas lui peser. Talon Vore craignait peut-être aussi que Perrine désire être seule et le renvoie dans le camp. S'efforçant de ressembler un peu moins à un spectre errant, Dixit Lini, Perrine eut l'ombre d'un sourire. Si Fail ne se trompait pas, Talon Vore était amoureux de Megdine, et ils se marieraient bientôt. Une bonne raison pour partager la butte. Les deux hommes regardèrent le crépuscule tombé sur la forêt couverte de neige. La nuit venue, Massema ne s'était toujours pas montrée. Mais Perrine s'en moqua comme d'une guigne. Sur un paysage enneigé, la lune gibbeuse éclairait presque aussi bien que la pleine lune, semblait-il. Hélas, des nuages vinrent bientôt l'occulter, enveloppant d'ombre les environs. Puis il se mit à neiger. Des flocons qui recouvriraient très vite toutes les traces. Silencieux et gelés, Perrine et Talon Vore continuèrent à attendre et à espérer.